Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on parle de parcours de vie, on parle de maternité à différents âges, on parle de changement de paradigme et de perspective. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Mérim Alaoui Mdghri, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Mérim?
Merci Yasmine, alhamdoulilah, tout va bien.
Alors Mérim, la vérité, elle sort de la bouche de qui?
Du cheval.
Elle sort pas de la bouche des enfants, elle sort pas. Pourquoi la bouche du cheval, justement?
La bouche du cheval, parce qu'un des personnages principaux de l'histoire, c'est une jeune femme qui a une grande bouche avec de grandes dents et qu'elle inspire à l'héroïne qui s'appelle Jmia, elle lui inspire un surnom qui est Bouche de cheval.
Ouais. Mais dans la vie, pas dans les romans, dans la vie, la vérité, elle sort de la bouche de qui?
Ouais, de personne, je crois. Même de personne, parce que je pense pas qu'il y ait de vérité. Ouais. Il y a des réalités qui sont différentes pour les uns et les autres, mais des vérités, je ne pense pas qu'il y en ait.
Alors justement, votre réalité, elle change. Vous lui laissez l'espace de changer et de vivre son changement seul, ou vous lui imposez un chemin?
Ma réalité à moi?
Oui, absolument.
Parfois, j'ai le désir, évidemment, d'imposer un chemin.
Oui.
Mais ça se passe rarement comme ce que j'ai projeté. Donc voilà, je me dis, on essaye de fixer un cap. On essaye d'y aller, mais en général, je ne sais pas si on y arrive et surtout, on est détourné à droite et à gauche par tout un tas de choses.
Vous le vivez mal, justement, quand ça ne passe pas, je vais y arriver, quand ça ne se passe pas comme vous l'auriez voulu?
Parfois, oui. Et donc, quand ça ne se passe pas comme je veux, j'ai cette espèce de conflit intérieur entre le désir et le réel, et il y a une difficulté parfois à accepter le réel, à accepter que les choses ne se passent pas comme on veut, ne vont pas dans le sens où on veut. Et bon, après, il y a un moment nécessaire qui vient de force d'acceptation.
Absolument.
Parfois je suis frustrée. Hein. Ouais.
Alors, le fait d'avoir vécu, d'avoir touché à plusieurs choses, d'avoir été dans le cinéma, d'avoir été dans les RH, d'avoir été dans la pub, d'avoir été dans les bijoux, d'avoir... est-ce que c'est des pansements? Est-ce que c'est des placebos? Du moment où c'est des choix réfléchis?
Alors, ce que j'aimerais vous poser comme question par rapport à ça, c'est pourquoi vous employez le terme placebo? C'est-à-dire, dans quel sens est-ce qu'il pourrait être des placebos? Je crois que je n'ai pas bien compris.
Dans le sens où, est-ce que c'est pour pallier à une situation? Ou est-ce que c'est un choix bien réfléchi? Ces différentes casquettes?
C'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas nécessairement des choix réfléchis, ni pour pallier à quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt de l'exploration qui découle de circonstances ou d'opportunités. Voilà. Il y a des opportunités qui se présentent ou des événements qui font que, toutes les conditions sont réunies pour devenir bijoutière.
Oui.
Explorons.
Oui,
et ensuite, il y a la curiosité, il y a l'excitation de la nouveauté, l'apprentissage qui fait que je m'y lance corps et âme et après ça continue jusqu'à ce qu'il y ait encore autre chose.
Quand vous dites toutes les conditions sont là pour se lancer, Est-ce que c'est un sentiment que vous avez dans les tripes? Est-ce que c'est quelque chose de... Vous le ressentez comment quand toutes ces conditions sont là pour faire quelque chose? Comment vous savez que c'est le bon moment ou que c'est la bonne chose à faire ou que tout est là pour y aller?
Je suis pas sûre qu'il y ait un moment où on se dise « je sais ».
Oui.
En tout cas pour moi, hein, je suis pas sûre qu'à un moment... Ça m'est arrivé aussi d'avoir des illuminations, mais oui. Elles sont rares et très précieuses et j'aimerais bien en avoir plus.
Oui.
Mais...
Non mais ça me rassure. Vous savez pourquoi, Maria? Ça me rassure parce que vous avez, et beaucoup de personnes qui sont là aussi, ont besoin d'entendre ça. Parfois, on a envie d'apporter un changement, de vivre autre chose. Mais la zone de confort reste rassurante. On se dit, c'est ce que je connais. Ce que je ne connais pas me fait peur. Donc, tant que ça me fait pas peur, tant que ça me fait peur et que je ne suis pas à l'aise, je ne vais pas sauter le pas. Mais vous êtes, voilà, allez-y. Je vous laisse parler.
Je comprends. Donc, on se dit, je vais attendre le moment où toutes les conditions seront là
réunies
pour faire la chose. Oui. Non, bah non, c'est idéal, ce serait bien.
Ouais.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a des situations transitoires qui se passent en douceur et des situations transitoires qui se passent dans un peu plus de violence. Mais quand c'est transitoire en douceur, on arrive à la fin d'une expérience ou alors on commence à sentir qu'on n'est pas tout à fait bien là-dedans, ou alors qu'on s'ennuie ou qu'on n'apprécie pas son travail. Là, je vais prendre juste un exemple professionnel
par exemple.
Ou qu'on a fait le tour de la question, ou qu'on est dans un environnement qui ne nous convient pas ou un métier qui ne nous convient pas. Et donc, on commence à ressentir cette espèce d'inconfort dans la situation. Et puis, en parallèle, il y a des portes qui s'ouvrent. On rencontre des gens... ils nous parlent de projets ou alors ils nous parlent d'idées qu'ils ont et puis ça résonne, on se dit bah tiens et moi si je pourrais aussi peut-être faire ça. Et puis si on est ouvert en fait simplement à la rencontre de l'autre ou des événements, si on est ouvert on constate qu'ils viennent, ils sont là et un jour on se dit j'en ai suffisamment pour pouvoir passer à autre chose.
Mais ça fait quand même peur.
Ouais.
Ça fait peur, en fait. En fait, ce qui fait peur, pour être honnête, ce qui fait peur à beaucoup de personnes, c'est le confort financier, c'est le confort matériel. On se dit, je sais ce que j'ai, je sais ce que je gagne, je sais comment je le gagne. Parce que la vie est ainsi faite. Maintenant, d'autres personnes n'ont pas peur d'abandonner ce confort et de se lancer vers autre chose. Et ça peut être parfois aussi être... Même ce confort, etc., peut être lié à une vie de couple aussi, à une vie de famille.
Moi, les années où j'ai le plus changé de métier, c'était dans la jeunesse. Donc, dans la jeunesse, l'avantage, c'est qu'il y a une forme d'inconscience. J'avais déjà des responsabilités parce que je me suis mariée et j'ai eu un enfant très jeune. Donc, je n'ai pas de souvenir de vie d'adulte sans être déjà...
Maman.
sans être déjà maman et donc avec un certain poids. Donc, mais l'inconscience de la jeunesse aide à... Et l'inconscience, pas dans un sens négatif, l'inconscience simplement dans la légèreté et la foi qu'on peut avoir dans des projets. Après, malgré tout, plus tard, j'ai quand même beaucoup changé et d'environnement géographique et j'ai eu à me réinventer plusieurs fois dans ma vie. Bah, parfois, c'était simplement aussi... parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. Quand vous parliez tout à l'heure de conditions de vie familiale aussi, parfois, dans une vie familiale, on a aussi des séparations, on est obligé de se réinventer, et ça se fait dans la douleur. Ouais. Mais ça se fait quand même parce qu'il n'y a pas le choix.
Est-ce qu'il y a une différence dans la vie de maternité entre avoir un bébé, un enfant très, très jeune, et un enfant... quand on a beaucoup plus de maturité?
J'entends souvent les femmes qui ont eu des enfants jeunes et des enfants dans la quarantaine dire c'est beaucoup plus... je suis différente en tant que maman dans la quarantaine, je suis beaucoup plus cool, je suis beaucoup plus zen. J'entends souvent ça.
Oui.
Moi, j'ai vécu l'expérience. J'ai été maman jeune et maman à 40 ans. Donc,
oui.
je sais pas si c'est plus facile. C'est différent, certes. Alors après, je me dis, est-ce que c'est différent parce que je suis différente? Est-ce que c'est différent aussi parce que l'enfant est différent? Un enfant. En se disant, oui, c'est plus facile à 20 ou à 40, ou c'est différent à 20 ou à 40, on oublie que déjà, l'enfant lui-même fait de nous un parent différent.
Absolument.
Moi, je ne suis pas le même parent avec chacun de mes enfants.
Vous savez, j'ai eu une conversation récemment avec une femme qui avait beaucoup culpabilisé à l'idée d'avoir un autre enfant alors que son aîné venait d'avoir son bac. Et donc, elle se disait, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle s'est mariée jeune, donc elle a eu un premier enfant jeune, deuxième enfant quand l'aîné avait 18 ans. Et elle m'a dit, je l'ai très mal vécu, je voulais cet enfant, mais quand je suis tombée enceinte, elle m'a dit, je l'ai très mal vécu vis-à-vis de mon aîné. Elle se disait, elle arrivait à la quarantaine, elle se disait, mais tu fais n'importe quoi, au lieu de t'occuper de ton enfant qui a eu le bac, d'aller l'installer, etc., tu es en train de vivre une grossesse, les premiers mois qui sont compliqués, etc. Et donc, dans sa tête, tout s'est mélangé. Après, quand le bébé est arrivé, la relation entre les deux, entre l'aîné et le plus jeune, est formidable. Mais elle se dit, mais elle m'a dit, j'ai très mal vécu ma grossesse. Alors que j'aurais pensé, troisième grossesse, justement, qu'avec l'expérience, on la vit mieux, parce qu'on sait à quoi s'attendre. La première est peut-être parfois difficile à vivre.
Pour moi, non, je n'ai pas ressenti de culpabilité vis-à-vis d'un autre enfant. Enfin, je veux dire, chaque enfant a sa place. J'ai assez de place pour tout le monde. Hein.
Ouais. Et ils le savent qu'il y a assez de place pour tout le monde.
Vous le savez.
Est-ce que dans les projets que vous avez menés, est-ce que le fait d'écrire, de sortir un livre, de sortir un roman, je pose la question, c'est très subjectif ce que je vais dire, mais est-ce que c'est le projet le plus compliqué à délivrer? Pourquoi? Parce que on est jugé sur ses capacités à attirer l'autre, à garder l'autre, à ramener l'autre dans son univers.
Moi, un de mes principaux défis quand je commence une séance d'écriture, c'est justement de me détacher du regard de l'autre et du mien. Donc c'est de me détacher de mon regard, de mon jugement, et ce faisant je me détache de celui des autres, et c'est de créer un espace de liberté d'écriture où en dehors de ce qui est inconscient, le conscient de ma personne ne s'exprime pas. Cette idée que ça va être lu un jour, je l'élimine, je me dis pour l'instant j'écris, c'est tout ce qui existe.
Même lors des moments, lors des séances de signature, de présentation, etc. Vous arrivez à rester détaché?
Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment quand je suis en train d'écrire. Quand je suis moi-même, avec moi-même et la feuille.
Mais ensuite, quand ça sort, quand ça devient public, quand il y a des critiques positives ou négatives, quand ça rentre dans ce monde-là, quand ça arrive à cette étape-là.
Moi, j'estime que moi, à partir du moment où il est remis à l'éditeur et envoyé à l'impression, le reste ne me regarde pas. C'est comme, dans la vraie vie, vous faites quelque chose, vous allez trouver des gens qui trouvent que ce que vous faites est très bien et d'autres qui vont trouver que ce que vous faites est absolument nul.
Oui.
Et les deux, si vous voulez, les deux leur appartiennent. Le fait qu'ils trouvent que c'est bien, ça leur appartient. Le fait qu'ils trouvent que c'est nul, ça leur appartient aussi. Ça n'a rien à voir avec moi.
Avec vous, exact. De toutes ces vies que vous avez vécues, est-ce qu'il y en a une, finalement, qui vous manque un peu plus que les autres?
Je ne suis pas capable de répondre à cette question, je n'y ai jamais pensé. Si je devais réfléchir, comme ça spontanément... La mémoire elle est traître, elle est infidèle, parce qu'elle retient des choses qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. C'est-à-dire que je peux Là, quand vous m'avez posé la question, j'ai eu des flashs de certains moments de vie,
oui.
En me disant « Ah, c'est vrai, c'était bien, cette période était bien ». Mais je sais aussi que dans toutes les périodes, on a des difficultés, dans toutes les périodes, on lutte. Et la mémoire est sélective.
Oui, oui, oui.
Et en fait, avec le temps, toutes les périodes finissent par être bonnes.
C'est ça. Mais vous savez ce que vous dites me rappelle en quelque sorte en fait le vécu d'une fratrie. Dans une fratrie, chacun vit la même vie avec ses parents ou une situation de manière différente.
Ouais.
Certains vont en sortir avec des traumas, d'autres pas du tout, d'autres.
Ouais.
C'est vrai. La mémoire est traître.
Oui, oui, elle est traître et puis elle est infidèle et puis aussi là dans le cas de l'exemple familial que vous avez donné. Surtout, l'expérience dans les fêtes est différente. C'est-à-dire que des frères et sœurs, les membres d'une fratrie, ne vivent pas une même situation de la même manière. Parce qu'ils sont à différents points de... Ils ont différentes perspectives, ils ont un différent lien avec leurs parents. Ils n'ont pas en tant qu'individu, parce que ce n'est pas parce qu'on est frères et sœurs qu'on a la même personnalité. Donc en tant qu'individu, ils ont une personnalité différente. Donc effectivement, au sein d'une même fratrie, et à partir d'un même événement, on a des interprétations différentes. Mais ça ne veut pas dire que les unes ou les autres sont fausses, c'est simplement qu'on a des réalités différentes. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de vérité.
C'est ça, on
a
des
réalités.
C'est
des réalités qui sont différentes. Ma réalité et la mienne, elle m'appartient et elle est vraie. Enfin, elle est vraie, elle est réelle. Elle a une forme de vérité pour moi. Mais... là où ça devient dangereux, c'est si je pense que ma vérité, que ma réalité est une vérité que je vais chercher à l'imposer à l'autre.
Vous avez eu à vivre ce genre de situation en famille, la fratrie qui vit, en fait, chacun vit une situation à sa manière et quand on la ressort plus tard, à l'âge adulte, on se rend compte que chacun de nous, chacun l'a vécu différemment.
À de nombreuses reprises. Ouais, j'ai plusieurs frères et sœurs. C'est très drôle d'ailleurs parce que chacun adulte, on reprend un événement, on se le raconte, mais chacun a une histoire différente.
Ouais.
C'est jamais la même. Et on a même des parents différents. J'ai un ami sénégalais avec lequel j'étais en train de discuter l'autre jour et il me parlait lui aussi justement de sa fratrie, de ses frères et sœurs et de son rapport à sa mère, et il disait c'est notre mère à tous, mais c'est ma mère. Et donc en fait c'est vrai, dans une famille, la mère c'est la mère de tout le monde, mais en fait chacun considère que c'est la sienne et parce que c'est la sienne, on n'en a qu'une. Mais c'est la mienne.
C'est fou hein, quand même qu'un homme à cet âge adulte le dise, parce que par exemple, quand on a, enfin, dans la fratrie, quand on a des enfants, même quand ils commencent à grandir, il reste toujours un petit peu de rapport de jalousie par rapport à ces ma mère. Et donc, moi, je pensais que quand elles allaient grandir, ça allait se calmer. Mais apparemment, non, ça ne se calme pas.
C'est pas juste. Ça se calme dans le fait de dire ma mère. Il n'y a pas nécessairement de possessivité et de jalousie. Il y a simplement le constat qui est là aussi réel, que la relation d'une mère à ses enfants va différer en fonction de l'enfant. Et elle va différer, c'est pour ça tout à l'heure quand je vous parlais de la relation avec mes enfants, avec celui que j'ai eu jeune par exemple et celui que j'ai eu sur le tard, je n'étais pas la même personne et l'enfant n'est pas la même personne. Donc à je ne sais pas combien d'années d'écart, 15 ou 16 ans d'écart, forcément tout a changé en réalité.
Bien sûr.
Ce qui n'a pas changé, c'est le terme mère-fils. Ces deux termes-là n'ont pas changé, mais tout ce qui constitue les mots sont différents. Et à des époques différentes. Donc, c'est impossible que ce soit pareil.
Alors, Marie Malaoum Dredé, qu'est-ce qui, selon vous, vous a donné cette liberté mentale, finalement, de jongler et de vivre toutes ces vies qui se présentent à vous?
Je pense que c'est mon éducation. Je pense que c'est le milieu dans lequel j'ai grandi. Les valeurs qu'on m'a inculquées, les exemples, les modèles que j'ai eus. J'ai eu la chance de grandir dans une cellule familiale très très libre. libre ne voulant pas dire permissive, mais libre avec une grande liberté de pensée, de réflexion, de questionnement. Je me suis jamais dit, si j'avais une question, voilà, je me disais pas, ah non, cette question, je peux pas la poser parce que c'est pas possible ou on comprendrait pas. Donc, ça permet, je crois, d'explorer sans interdit limitant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Il y avait des limites, mais sans la limite de l'interdit.
Marima Alaoundrali, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous, Yasmine.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média 1 et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.